Le journal, voici Faustine Calmel. Bonjour Faustine.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Paris outragé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Il y a 75 ans débutait la bataille pour chasser les Allemands de la capitale. Ceux qui témoignent se font rares. C'est le cas de Charles Pégulu de Rovin qui nous raconte sa libération de Paris ce matin. Biarritz, bloqué, le G7 débute dans 5 jours et déjà les associations et les ONG s'installent. Contre-sommet pour faire avancer la cause du climat. Fin de vacances pour les ministres, rentrée à Paris aujourd'hui, avec sur leur bureau le délicat dossier du budget 2020. Les députés de la majorité toujours confrontés aux dégradations de leur permanence et ils ne voient pas comment apaiser le climat autour du CETA. Et puis mauvaise rentrée pour le PSG, deuxième journée de Ligue 1 et déjà une défaite face à Rennes hier soir.
Notre invité à 8h moins le quart ce matin, Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France en Russie. Avec lui, les enjeux de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à Brégançon cet après-midi.
Ils sont de moins en moins nombreux à pouvoir en témoigner et c'est l'un des moments clés de la Seconde Guerre mondiale. La libération de Paris après 4 ans d'occupation allemande, elle débutait il y a exactement 75 ans, le 19 août 1944. Des Parisiens entrés de force dans l'hôtel de ville avant l'arrivée de la division Leclerc. Une insurrection à laquelle a participé Charles Pégulu de Rovin. Johanna Yakin a recueilli ses souvenirs.
En 44, Charles Pégulu de Rovin est étudiant. Il fait aussi partie des équipes nationales prêtes à donner un coup de main pendant la guerre. Le 19 août, ça bouge.
Le groupe dont je dépendais me dit « Écoute, ça se passe du côté de l'hôtel de ville ». On me dit « Bah, t'as qu'à y aller ».
Charles fait alors ses adieux à sa sœur. Pour arriver à l'hôtel de ville, il ruse.
Je m'étais acheté un bleu de travail. Quand on a un bleu, on passe inaperçu et on est tranquille.
Derrière les barricades, un jour, Charles pense bien que son heure est venue.
On voit arriver une colonne allemande et les ordres sont donnés, on ne tire pas. Et il y a toujours, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment le mot, un connard, il prend le fusil, paf. Et le canon du char, il tourne en direction de l'hôtel de ville. J'ai fait mon signe de croix, j'ai dit maintenant mon vieux, c'est là-haut que ça va se passer. Hein.
Par chance, le char tire à côté et repart. Et puis le 24 au soir, la deuxième division blindée entre enfin dans Paris.
J'ai dit maintenant, c'est dans la poche, parce qu'il y a du sérieux qui est arrivé.
Paris est libéré le 25, le général de Gaulle arrive à l'hôtel de ville et prononce son fameux discours.
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Charles escortera même le général assis sur l'aile de sa voiture. Mais 75 ans plus tard, pas question de lui dire qu'il est un héros.
Nous avons fait notre devoir.
Et pour célébrer ces femmes et ces hommes qui ont fait leur devoir, de nombreuses cérémonies sont prévues dimanche, le 25 à Paris, avec l'ouverture notamment d'un nouveau musée de la Libération. Vous retrouvez aussi une vidéo d'archives sur franceinter.fr. Le corps de Simon Gauthier retrouvé hier soir dans le sud de l'Italie, 9 jours après son appel de détresse. Il expliquait alors être tombé dans un ravin, avoir les deux jambes cassées. Le randonneur français a été repéré par les chasseurs alpins dans un endroit très difficile d'accès. Les opérations pour remonter sa dépouille reprennent ce matin. Ce sera le moment fort de la semaine, le G7 à Biarritz, il débute samedi. Mais dès aujourd'hui, les ONG s'installent au pied des Pyrénées. Elles y tiennent leur contre-sommet à partir de mercredi à Hendaye et Hérone pour mettre la pression sur les chefs d'État avec l'objectif de faire avancer vraiment la cause climatique, Célia Kéré.
Les anti-G7 attendent 12 000 personnes pour leur sommet des alternatives. Parmi eux, Malika Perrot, des Amis de la Terre, dénonce l'hypocrisie des chefs d'État qui inscrivent le climat ou la lutte contre les inégalités comme priorité.
Quand on mène une politique socialement juste, qu'on signe des accords de libre-échange comme le CETA, qu'on ne mène pas les politiques climatiques qui s'imposent, on ne fait en réalité qu'accroître les inégalités.
Ces anti-G7 prévoient plusieurs manifestations en fin de semaine. Dimanche, ils défileront par exemple avec les portraits d'Emmanuel Macron décroché de manière illégale dans les mairies. L'ONG Greenpeace n'y participera pas. Clément Sénéchal préfère rester actif au sein du sommet pour mettre la pression sur les dirigeants.
Nous attendons par exemple de la France qu'elle donne un nouveau chiffre, un pourcentage de réduction de gaz à effet de serre qu'elle vise d'ici à 2030, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Ça veut dire mettre fin par exemple aux subventions aux énergies fossiles. C'est un peu la dernière occasion puisque l'année prochaine on aura le G20 qui sera présidé par l'Arabie Saoudite et le G7 par les États-Unis, donc deux États climato-sceptiques.
Pour Greenpeace, les États pourraient également doubler leurs investissements dans les fonds verts pour le climat, ce qui aiderait les pays en voie de développement. L'ONG rêve d'une coalition qui réunirait par exemple la France, l'Allemagne et le Canada pour isoler la politique climato-sceptique des États-Unis.
5 jours avant ce G7, aujourd'hui, Vladimir Poutine est attendu lui au fort de Brégançon dans le Var. Celui qui est exclu du rendez-vous des grandes puissances depuis l'annexion de la Crimée en 2014 est invité pour une visite de travail avec Emmanuel Macron. Il sera question notamment de l'Iran, de la Syrie et de l'épineux sujet des libertés publiques en Russie.
7h35, Faustine Calmel, la rentrée politique dès aujourd'hui. Les ministres sont de retour à Paris.
Avec sur la table un dossier sonnant et trébuchant, celui du budget 2020 qu'il faut déjà préparer. Il faut notamment financer les mesures annoncées après le grand débat et donc faire des économies. Chaque ministère a reçu fin juillet les lettres plafond qui déterminent les effectifs et les moyens alloués à chacun. Delphine Simon.
Urgence climatique, urgence sociale. Après le grand débat, ces missions verront leurs crédits augmenter. 1 milliard d'euros de plus pour l'éducation, justice, police, armée, les ministères régaliens gagnent 2,5 milliards en 2020. Comment financer ces priorités alors que les impôts des ménages vont baisser de 5 milliards l'an prochain? Bercy compte d'abord sur la croissance, mais en pleine guerre commerciale, difficile d'y voir clair. Il y aura aussi des économies, principal contributeur, le logement, avec la mise en œuvre de la réforme des APL dès le 1er janvier. Elles seront calculées sur les revenus actuels du bénéficiaire. Les dotations vont baisser pour l'audiovisuel public, les chambres de commerce ou le Quai d'Orsay. Quant aux grandes entreprises, elles devront attendre un peu pour voir baisser leur impôt au même niveau que les PME. À cela s'ajoute le toilettage de certaines niches fiscales, mais pas question de passer en force. La suppression de l'avantage sur le gazole non routier sera finalement étalée sur 3 ans pour ne pas crisper le secteur du bâtiment. Du coup, l'économie sera faible. L'an prochain, Bercy le reconnaît, ambitieux mais pas brutal. Ce sont les maîtres mots du budget de cet acte 2.
Un budget qui sera présenté fin septembre. Les députés de la majorité, toujours confrontés aux dégradations de leur permanence, du fumier des parpaings et même une tentative d'incendie à Perpignan cet été. Depuis la ratification du CETA, accord commercial entre Canada et Union européenne fin juillet, ils encaissent les actions de mécontents. Au moins 35 députés marcheurs ont eu à en pâtir et ils ne voient pas bien ce qui pourrait y mettre fin, Adrien.
La permanence de Christophe Arendt à Forbach a encore été visée la semaine dernière. Il a le sentiment qu'un dialogue est impossible.
On se retrouve toujours avec les mêmes individus, avec leur propagande sur les réseaux sociaux. On se fait démonter notre argumentaire par des informations fausses.
En Haute-Saône, Barbara Bessot-Ballot a, elle, trouvé sa permanence murée 2 jours après le vote du CETA. Elle pensait pourtant avoir convaincu les agriculteurs de sa circonscription.
J'ai la ferme sensation, en tout cas, d'avoir fait correctement mon travail d'écoute, de discussion, d'explication.
D'après elle, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un amalgame dans l'opinion publique entre CETA et Mercosur, un autre accord de libre-échange en négociation.
Le Mercosur, il n'y avait pas du tout de sujet à ce moment-là. Et on n'avait pas du tout à parler du Mercosur à ce moment-là. Et c'est là où il y a eu un souci, une confusion en tout cas, puisqu'on voit bien que dans certains journaux, il y a amalgame de Mercosur et CETA.
Le CETA est voté. Si le Mercosur suit, la tension ne risque pas de retomber, craint le député Sacha Houlier.
Est-ce qu'on s'attend à être challengé? Oui. Et est-ce qu'on s'attend à être bousculé? Ça dépendra aussi de la façon dont se présente le débat. Mais il est clair que s'ils se rendent dans les mêmes termes que le CETA... Je ne vois pas pourquoi les choses pourront être malheureusement différentes.
Une ratification du Mercosur est encore loin. En l'état actuel, le texte ne convient pas à la majorité.
Adrien Serrière, des trombes d'eau, du vent à plus de 100 km/h dans le Haut-Rhin et de la grêle, comme s'il avait neigé, raconte ce matin un viticulteur du Beaujolais qui estime avoir perdu la moitié de sa récolte. Les violents orages de la fin de journée d'hier et de la nuit ont fait de gros dégâts dans l'Est, mais ce matin, plus aucun département en vigilance orange, selon Météo France. Tourner et chercher sur des kilomètres une station-service ou faire le plein, il n'en reste aujourd'hui plus que 11 000 en France, presque 4 fois moins qu'il y a 40 ans. Alors certaines communes décident de prendre en charge la question du carburant en rachetant les stations qui ferment. C'est le cas à Genillé en Touraine et les automobilistes sont ravis, François Desplan.
Tous vous disent la même chose, hein, ça vous change la vie. Henri vient de s'y arrêter.
Et là je pars à Tours, bon, fallait que je passe par Loche pour prendre de l'essence pour repartir sur Tours. Là je prends directement l'autoroute à Sublaine et puis c'est bon, quoi.
Et peu importe, hein, si le carburant est un poil plus cher que dans les grandes surfaces de Loche, car les quelques centimes d'euros économisés là-bas...
C'est ce que j'aurais brûlé pour aller la chercher, l'aller-retour, alors voilà.
1,41€ le gasoil, 1,53€ le sans-plomb 95, c'est plus qu'acceptable pour une petite station comme celle-ci, et c'est 20 pleins par jour en moyenne. Petite station, oui, mais gros projet pour la mairie. 70 000€ pour acheter le site, 40 000 de plus pour changer les pompes et la tuyauterie, et pas moins de 50 000€ pour remplir chaque mois les cuves de carburant. Pour cela, le maire Stéphane Herbert et sa régie s'adressent à 3 fournisseurs. fournisseurs.
À chaque fois qu'on a besoin d'un plein, on le remet en concurrence. 35 000 litres le dernier coup, là. Bon, quels sont vos prix? Et puis 24 heures après, on a la réponse et on doit répondre immédiatement pour être livré le lendemain.
La mairie fixe les tarifs de vente au prix du marché, moyennant 0,035 centimes de marge par litre. Mais pas question de faire des bénéfices. Enfin, c'est pas le but.
Si jamais ça marchait bien, c'est une régie communale. Régie communale et puis budget communal, c'est quand même la même maison. Hein.
En clair, les bénéfices éventuels seraient réinvestis dans d'autres dépenses de la commune.
Un reportage François Desplan en Touraine.
Faustine, le foot et le PSG chutent déjà en championnat.
Les Parisiens ont encaissé leur première défaite face à Rennes dès la deuxième journée de Ligue 1 hier soir, 2-1. L'an dernier, le PSG était resté invincible jusqu'à la 23e journée. Alors cette défaite, elle est dure à avaler. Dans un club tourmenté par le feuilleton autour du départ ou non de sa star Neymar. Difficile hein, hier soir de trouver les mots, Bruno Salomon.
Thiago Silva est le seul joueur parisien à s'être arrêté au micro hier soir. Le capitaine du PSG a tenté de trouver des explications à ce premier raté de la saison où Paris s'est fait sacrément bouger par des Rennais entreprenants.
On doit s'y préparer mieux. Ce n'est pas une excuse qu'ils ne sont pas bien physiquement, surtout moi, Marquis, Di Maria et Léo qui sont arrivés après. Ce n'est pas une excuse. Mais c'est dommage, le deuxième match de la saison, déjà en défaite.
Paris est passé à côté de son match, c'est une soirée à oublier pour Thiago Silva qui, en plus de devoir commenter une défaite, n'a pas échappé à des questions sur Neymar.
Bien sûr qu'il nous manque, c'est un joueur encore de Paris Saint-Germain, j'espère qu'à la fin il pourra rester avec nous parce que c'est un mec incroyable et pour cette équipe c'est un joueur indispensable. Neymar est un joueur clé de cette équipe. On ne doit pas parler s'il va rester, s'il va partir. Mais mon sentiment, qu'il pouvait rester avec nous.
Ce message est clairement un appel du pied d'un capitaine à sa direction pour garder Neymar, un dossier mercato qui pollue l'environnement parisien depuis des semaines. Ajoutez à cela la défaite d'hier soir et vous avez déjà un PSG sous tension dès la mi-août. À Rennes, Bruno Salomon, France Inter.
Rennes, troisième du classement de Ligue 1 ce matin, juste derrière Nice et Lyon, leader. 7h42, Pierre Veil.
C'était le journal de Faustine Calmel. La circulation au PC Mobilité, Kevin Dufraîche, un accident à la sortie de Paris.
Oui, sur l'A4, quand vous quittez la capitale vers l'Est, à hauteur de Saint-Maurice, une voiture, un poids lourd et une moto sont impliquées. Il faut être très prudent, car sur 5 voies, c'est la voie centrale qui est concernée. Autre accident à la sortie de la rocade de Nantes, cette fois sur l'A11 vers Paris, à la Chapelle-sur-Erdre, il y a 2 km de bouchons en amont. Enfin, attention, il pourrait y avoir du monde. Aujourd'hui en Ile-de-France, Bison Futé classe la région orange dans le sens des retours.